Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la réforme des retraites adoptée en première lecture cette nuit à l'Assemblée. Les députés ont en effet rejeté les deux motions de censure déposées contre le gouvernement. L'objectif du Premier ministre reste une adoption définitive du texte avant l'été. On voit ça en détail après les autres titres, Agnès.
Le super mardi aux États-Unis avec une légère avance à l'heure qu'il est pour Joe Biden. Nous ferons le point en direct de New York. Un nouveau foyer de Covid-19 à Mulhouse. Alors que les banques mondiales montrent des signes de fébrilité. Des milliers de réfugiés toujours bloqués à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Reportage à Castagnès. Et puis la mort de l'homme qui murmurait à l'oreille des maillots jaunes, Nicolas Portal.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Qui a-t-il dans la tête de Recep Tayyip Erdogan? À quoi joue le président turc? Que veut-il vraiment en ouvrant ainsi ses frontières avec l'Union européenne? On va essayer de le comprendre ce matin avec le chercheur Ziad Majed et la journaliste Delphine Minuit en direct d'Istanbul.
A tout à l'heure, à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui dialoguera avec vous, évidemment. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. Après 3 mois de mobilisation dans la rue, après 13 jours de débats houleux à l'Assemblée, après 5 heures d'ultimes affrontements dans l'hémicycle, la réforme des retraites a donc été adoptée cette nuit en première lecture grâce au 49-3. Rejetées donc les deux motions de censure, celle déposée par la droite, a recueilli 148 voix avec le soutien des insoumis. La droite, en revanche, n'a pas voté la motion déposée par la gauche qui n'a recueilli que 91 voix. Très loin donc des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Laurence Perron a assisté aux dernières passes d'armes. Reportage.
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de suspense qu'il ne faut pas faire de show. La droite LR et son chef Damien Abad ont donné le ton.
J'ai bien compris, monsieur le Premier ministre, que le président de la République préfère les amateurs aux professionnels. Mais le paradoxe, c'est que vous êtes devenus les professionnels de l'amateurisme.
Le communiste André Chassaigne, qui défend la motion de gauche, n'est pas en reste, qui traite les députés de la majorité de
cacatoès,
de perroquets.
J'avoue que vos gargouillis et vos cris me provoquent un certain plaisir à l'oreille.
Voilà qui a le don d'agacer Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui en perd son latin.
Que personne ici, comme l'a suggéré le président Chassaigne, ne fasse le cacatoès.
Ce qui autorise le Premier ministre à user de formes de style très Macron, époque carabistouille.
Ceux qui défendent le statu quo racontent bien trop souvent des calembres d'aine.
Tout en assumant la loi et la méthode, avertissant même les partenaires sociaux qui s'écharpent sur la pénibilité.
Mais là encore, comme sur la question du financement, je tiens à dire qu'à défaut, le gouvernement et le Parlement prendront leurs responsabilités.
On aura entendu tonner la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Vous êtes des technocrates hallucinés par leur vérité.
Au final, pas de surprise, la majorité a été rudoyée, mais elle a tenu. La réforme va suivre son train jusque bientôt chez les sénateurs.
Ça fait quand même beaucoup de bien quand ça s'arrête. Hein.
Oui, ça ne s'arrête pas tout à fait puisque le texte doit effectivement être examiné par les sénateurs le mois prochain pour une adoption définitive avant l'été.
Il est 7h03, direction les États-Unis où se poursuit le Super Tuesday.
Les électeurs de 14 États votent pour déterminer qui sera le candidat démocrate face à Donald Trump en novembre prochain. Ils étaient 11 au départ, mais le scrutin aujourd'hui s'est resserré autour de Bernie Sanders et Joe Biden. Bonjour Isabelle Raymond.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à New York. Alors les résultats tombent les uns après les autres et c'est la ligne modérée qui semble, mais restons prudents, prendre l'avantage pour l'instant.
Oui, les États tombent les uns après les autres, effectivement, dans l'escarcelle pour l'instant de Joe Biden. L'ancien vice-président d'Obama a réussi son pari, capitalisé sur le succès de ce week-end en Caroline du Sud, puisqu'il remporte pour l'instant 8 États, plus de la moitié donc de ceux en jeu pour ce Super Tuesday, grâce notamment au vote afro-américain des États du Sud des États-Unis, l'Alabama, le Tennessee, mais pas seulement, Oklahoma, Arkansas, Massachusetts aussi, l'État d'Elizabeth Warren, le ralliement de tous ceux que le Parti démocrate compte de modérer derrière son nom a porté ses fruits. C'est une bonne soirée, a déclaré Joe Biden, visiblement ragaillardi par ses bons résultats. Écoutez.
C'est une bonne soirée et ça se passe de mieux en mieux. On ne l'appelle pas le Super Tuesday pour rien. Il y a quelques jours encore, la presse avait annoncé la mort de cette campagne. Puis il y a eu la Caroline du Sud. On est bien en vie.
Alors, autre enseignement de ce super scrutin, les centaines de millions de dollars dépensés par le milliardaire Michael Bloomberg n'ont pas réussi à lui assurer une place puisqu'il n'a remporté aucun État pour l'instant. Et puis, Bernie Sanders, le radical, a pour l'instant remporté 3 États, dont le sien, du Vermont. Mais ce n'est pas fini, Agnès, et rien ne dit surtout qu'un candidat se dégagera dès ce Super Tuesday.
Merci Isabelle Raymond, en direct de New York pour France Inter. On attend effectivement les résultats, notamment pour le Texas et la Californie. Les États-Unis, le coronavirus a fait 9 victimes, une centaine de cas recensés. Les autorités sanitaires restent optimistes, mais la surprise est venue hier de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a décidé de baisser d'un demi-point son taux d'intérêt principal. Une mesure d'urgence, Delphine Simon, face au risque de récession.
Cette fois, le risque de récession est pris très au sérieux. En France, la croissance pourrait perdre 0,3 point cette année selon l'OCDE. Ces prochaines semaines, les prévisions de ralentissement vont se multiplier. La décision de la Fed, la Banque centrale américaine, inquiète plus qu'elle ne rassure, explique l'analyste financier de Saxo Bank, Christopher Dembick.
Ça traduit aussi un sentiment de panique de la part des banques centrales. Donc concrètement, les marchés paniquent parce que le message qu'on voyait, c'est indéniablement la situation économique est très très négative. Donc ça nécessite une réaction massive.
En Europe, la Banque centrale promet elle aussi des mesures ciblées pour protéger de la faillite les petites et moyennes entreprises dans le tourisme, la pharmacie ou l'électronique. La machine va repartir, mais quand ? Il va falloir tenir grâce à des mesures budgétaires, explique l'économiste de l'OFCE, Henri Sterdignac.
Les États vont les uns après les autres offrir des facilités de paiement des impôts, des cotisations sociales aux entreprises, puis on va être indulgent pour les entreprises menacées de faillite, sachant qu'il y a 6 mois difficiles à passer.
Vu l'extension de l'épidémie, le rebond n'est pas attendu avant le second semestre, rappelle-t-il. Seule bonne nouvelle pour l'automobiliste, la chute des cours du baril de pétrole, moins 20% depuis le 1er janvier.
Et la Banque mondiale a annoncé hier un plan d'urgence de 12 milliards de dollars. En France, un quatrième décès a été annoncé, un homme de 92 ans habitant le Morbihan. Un nouveau foyer est également apparu hier à Mulhouse, au sein de l'église de la Porte Ouverte Chrétienne. 7 cas confirmés. Patrick Janton de France Bleu Alsace a rencontré l'un des pasteurs de cette communauté, Thibaut Geyère.
Plusieurs membres ont été infectés. Donc, comme on a passé une semaine à prier tous ensemble, mais effectivement, le virus s'est propagé. Je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a plusieurs.
Vous n'allez plus vous réunir ?
On attend en tout cas les consignes de cette agence qui va nous dire comment fonctionner. Pour l'instant, on fait donc nos cultes en live sur Internet. Et puis, en fonction des consignes, on les respectera. Chaque dimanche matin, c'est plus de 2500 personnes qui se réunissent et des dizaines de milliers de gens sur Internet qui nous suivent. Je pense vraiment pas qu'il y ait une peur. Je crois qu'on a envie d'être sérieux, d'être sage dans notre foi. On croit que Dieu fait des miracles, mais on croit aussi en l'importance de se laver les mains, d'être vigilant.
Se laver les mains et porter un masque, prévention, mais aussi détection avec la mise en place depuis le début de la semaine de bâtiments dédiés à l'accueil de possibles cas de Covid-19. Béatrice Duguay s'est rendue dans le centre de dépistage de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. Reportage.
Des Algeco sur 2 niveaux, tout juste aménagés, surtout très fonctionnels, avec du personnel issu des urgences. À l'entrée, consignes strictes.
C'est pas un lavage simple, c'est vraiment une friction des mains.
Et équipement obligatoire.
Tout le monde a son masque ?
Non. Les patients sont fléchés par le SAMU et les infectiologues de l'hôpital. Cette unité reçoit donc ceux qui ont une haute probabilité de développer le Covid-19.
Là, vous voyez une infirmière qui va faire un prélèvement, donc elle est en tenue complète de protection, elle a une surblouse, un masque et son chariot donc pour prélever.
C'est le docteur Frédéric Adnet, chef de service des urgences, qui fait visiter.
On peut simultanément accueillir 12 patients. C'est des boxes qui sont extrêmement simples, il y a juste une chaise, mais surtout il y a des fenêtres qui permettent une aération.
15 minutes d'aération et nettoyage entre chaque patient, lequel subit un prélèvement dans les fosses nasales et des prises de sang.
Comme les tubes ils sont rentrés dans la pièce, tous les tubes ils ont été désinfectés avant d'être mis sous le sachet.
Il faut 2 à 4 heures de délai pour les résultats. Les équipes de 3 à la manœuvre, médecins, infirmières et soignantes, sont toutes rassurantes et volontaires pour ce service. Comme Angélique.
On savait dans quoi on s'engageait. Puis je vous dis, on est toutes les deux mères de famille d'enfants en bas âge, donc À partir du moment où les procédures sont respectées, il n'y a pas de raison de quoi que ce soit.
Les lits réservés en médecine tropicale restent disponibles. Les premiers tests à l'hôpital Avicenne sont négatifs jusque-là.
Reportage de Béatrice Duguay. Puis les salariés du musée du Louvre décideront ce matin s'ils reprennent le travail après avoir exercé leur droit de retrait. Tous les enseignants vont recevoir par mail un questionnaire anonyme et confidentiel pour qu'ils puissent dire leur ressenti sur leur métier. Une annonce hier du ministre de l'Éducation nationale. 43 questions pour dire leurs attentes et leurs déceptions. Réponse souhaitée avant le 17 mars.
Il est 7h10, Agnès. Réunion d'urgence aujourd'hui à Bruxelles des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne.
Comment trouver ensemble des réponses à la crise migratoire provoquée par la situation en Syrie? Depuis plusieurs jours, des milliers de réfugiés sont massés à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Frontière où s'est rendue Angélique Kourounis.
Tous les jours à Castagnès, il y a un peu plus de militaires, un peu plus de patrouilles côté grec et un peu plus de gens en face qui s'accrochent aux barbelés. Le gouvernement grec assure repousser tous les jours entre 4 et 5 000 migrants qui veulent passer la frontière. Les militaires grecs sont aidés par les habitants de la région dans leur ensemble très hostile aux réfugiés. La preuve, alors que les hommes patrouillent en milice, les femmes, elles, font des collectes pour améliorer l'ordinaire des militaires.
On collecte tout ce que les gens amènent. Il y a surtout de l'eau, mais aussi des jus, des croissants, des gâteaux. Chacun amène ce qu'il peut.
À côté d'elle, Marika, venue avec son camion, donner un coup de main.
On est toutes venues aider, on est unies pour gagner et que personne n'arrive à passer.
La visite du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis hier avec les hauts responsables européens a mis un peu de baume au cœur des Grecs de la région. Mais une fois les projecteurs éteints, ils se demandent bien quelle sera l'issue de cette énième crise migratoire qui frappe le pays. Castagnès, Angélique Kourounis, France Inter.
Enfin, la disparition d'une figure du monde du cyclisme. Nicolas Portal, 40 ans, a succombé hier à une crise cardiaque. Ancien coureur au service de ses coéquipiers, il était devenu un directeur sportif exceptionnel à la tête d'Ineos, collectionnant 6 victoires sur le Tour de France. Il était notamment la voix dans l'oreillette de Chris Froome et un homme très apprécié par ses collègues et ses concurrents. Fanny Le Chevestrier.
Nicolas Portal, c'était pour toute la caravane du Tour de France déjà un sourire, une disponibilité à toute épreuve qui l'avait rendu incontournable sur les routes du mois de juillet. Aussi discret qu'attachant avec son accent du sud-ouest, ce bourreau de travail, assoiffé de tactique et de technologie, était surtout devenu au fil des ans l'homme qui faisait gagner Chris Froome, l'homme qui murmurait à l'oreillette des champions. Affable, calme, c'est ainsi que le Gersois avait conquis la confiance des plus grands, raconte son ancien patron chez AG2R, Vincent Lavenu.
Pour diriger des gens de haut niveau, il n'y a pas que le côté technique, il y a aussi tout l'aspect humain. Voilà, c'est ce qui caractérisait Nico, hein. Un mec très sympa, très agréable à vivre. C'est un garçon qui était plein de joie, pétillant de bonheur, voilà, qui avait une capacité de communiquer simplement et agréablement avec les gens qu'il connaissait.
Une communication tout en douceur qui lui permettait chaque année de gérer les égos des champions, qui rendait aussi tout simplement plus humaine la machinerie froide jusqu'à en devenir suspecte de l'équipe britannique. Ineos a ainsi perdu hier bien plus qu'un simple rouage, mais son maître a gagné. Le Tour de France voit lui s'envoler, l'un de ses plus grands sourires, à seulement 40 ans.
Merci Agnès Soubiran.